Alors nous voici réunis pour cette première séance du catéchisme et il s'agit pour nous à présent d'avoir une vision complète de la foi. Lorsque le pape Benoît XVI est venu en voyage apostolique en France, il s'est arrêté notamment à Lourdes en pèlerinage mais aussi pour y rencontrer l'ensemble des évêques et au sujet de la catéchèse, du catéchisme, le pape a mis en garde en disant « attention aux différents modules, comme on peut parler dans les parcours de catéchisme, qui vont mettre en valeur tel et tel aspect, sans donner aux enfants ou aux chrétiens une vision cohérente de la foi. » Souvent, quand on regarde des catéchismes, vous avez tel sujet qui va être abordé, tel autre à côté, un autre à côté, et en fait, il va manquer une vision d'ensemble. Alors si nous, pendant ces temps de catéchèse, on va aussi creuser certains sujets, ben, il nous faut tout d'abord avoir une vision complète de tous les mystères de la foi pour tout tenir. Et là, le pape pointait du doigt quelque chose de très vrai. Quand on parcourt quelques livres de catéchisme, souvent il n'y a plus d'enseignements sur le mystère de Dieu, c'est-à-dire le mystère de la Trinité. La création, elle peut être mise d'un côté, mais on n'aura pas les fins dernières. Enfin, il faut tout tenir. Pourquoi ? Parce que la foi, elle vient de Dieu et puis elle retourne à Dieu. C'est vraiment ce même mouvement qui nous concerne. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Et la révélation, elle va commencer. Et puis, elle a aussi une perspective. Donc, c'est pour ça que je voudrais d'abord aujourd'hui donner vraiment les grands éléments de cette vision d'ensemble. Eh bien, pour commencer, il faut commencer avant le commencement. Le livre de la Genèse s'ouvre en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », puis un peu plus loin, « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Je commence par là parce que le mystère du temps est une créature au même titre que les animaux, les anges ou nous-mêmes. Donc Dieu, il va créer le temps, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, mais cela dit bien que Dieu est en dehors du temps. Donc il y a déjà le mystère de Dieu tel qu'il est en lui-même. Donc il nous faudra étudier ce grand mystère de Dieu. Hein, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont éternels, ces personnes divines, elles n'ont ni commencement, ni fin, en dehors du temps. Et ensuite, bien, on va commencer avec la création. Dieu crée le monde et il crée l'homme pour le monde. Et ensuite, il va y avoir l'épisode du péché. Mais il faut faire déjà attention à une chose, c'est qu'il y a une théologie avant le péché qui nous dit déjà ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme, indépendamment du péché, indépendamment de la mort. Alors bien sûr, nous, on veut avoir des questions sur la mort, qu'est-ce qui va se passer après la mort, et bien sûr, le Seigneur promet la vie éternelle. Mais il faut aussi penser une chose, c'est que l'homme n'a pas été créé pécheur. Donc il y a aussi toute une partie de la théologie qui est assez importante, qui est avant le péché. Adam et Ève, c'est ce qu'on appelle l'économie originelle. Alors économie, pour nous, c'est un mot très financier. Economos, en grec, c'est la gestion de la maison. La maison étant l'Église, eh bien, il y a une économie avant le péché. Ce qui nous permettra de bien comprendre à la fois Adam et Ève, mais aussi le fait que le Seigneur Jésus est le nouvel Adam et que la Bienheureuse Vierge Marie, de par ses privilèges, est la nouvelle Ève. Elle est Ève telle qu'elle a été créée. Elle ne connaît que le bien. Elle n'a pas l'idée du mal, elle est familière avec Dieu, etc. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a bien sûr le péché originel. Et avec ce péché originel, donc il nous faudra comprendre ben, qu'est-ce que c'est que ce péché. Il est à l'origine ben, de ce que nous sommes, comment est-ce qu'on se le transmet par voie de génération. Et surtout, ben, qui vient nous en sauver. Alors là, il y a toute une pédagogie divine qui se met en place à partir du péché originel. Il va y avoir l'alliance qui va être faite avec Noé, l'alliance ensuite de Dieu qui va se donner en donnant notamment la terre promise, en donnant la loi avec notamment Moïse. Et puis ensuite, il va y avoir toute une période qui va être celle des prophètes. Les prophètes qui sont là pour rappeler toujours l'alliance qui a été faite. Puis, on va arriver enfin à la révélation même de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se fait chair, hein, l'incarnation du Seigneur. Et puis, donc, cette loi nouvelle qu'il met en place, mais ce n'est pas encore tout. Bien sûr, il va y avoir le grand moment de la rédemption, hein, le Seigneur meurt, le Seigneur ressuscite. Puis, il y a également tout ce temps où le Seigneur est ressuscité, bien présent à son Église, et le moment où il monte au ciel, et puis ensuite s'ouvre vraiment avec la Pentecôte, le temps de l'Église dans lequel nous sommes maintenant. Et puis, donc là, on est arrivé grosso modo et rapidement en 2021, mais il y a quand même une perspective qui est déjà celle du livre de l'Apocalypse, hein, qui est celle du retour du Christ. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et une fois que l'on a déjà dit un peu tout ça, il faut quand même aborder des questions comme qu'est-ce que c'est que l'enfer, le purgatoire, le paradis. Et quels que soient les sujets que nous prenons et que nous abordons, ils nous renvoient à chacune des réalités que je viens de faire. Tout ce que fait Dieu nous dit quelque chose de l'être même de Dieu, même avant un commencement. Ça va nous dire que déjà quelque chose, Dieu va donner la terre promise au peuple, par exemple. Mais en fait, cette terre véritablement promise, c'est comme dit Notre-Dame de Lourdes, « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » La véritable terre promise, elle n'est même pas ici-bas sur la terre, c'est déjà le ciel, la vie éternelle en paradis. Donc, chacun des sujets que nous prendrons devra résonner, eh bien, en théologie de la création, devra résonner eh bien, dans l'Ancien Testament avec le don de la loi, avec celui des prophètes, avec la venue du Seigneur Jésus-Christ et tous ces mystères. Lorsque l'on fait des catéchismes où on va commencer par exemple avec seulement Jésus pour des enfants, ben, c'est quand même un peu bancal parce qu'il va leur manquer tout un certain nombre d'éléments très importants. C'est pourquoi le catéchisme et de l'Église catholique et le compendium, eux, reprennent justement cette vision d'ensemble. Je vous avais dit, le catéchisme de l'Église catholique, il commente le credo, article après article, il va commenter le Notre Père, il va commander les sept sacrements et les dix commandements. Donc là déjà, on a déjà de la matière. Mais déjà dans la foi, il ne faut jamais oublier hein, que la foi, elle me fait tout tenir. Alors, pour commencer maintenant par le commencement, si l'on peut dire, il y a la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vous ai dit, dans cette création, il y a le mystère du temps, hein, de ce temps qui pour nous est très important, parce que nous évoluons dans le temps, parce que nous vieillissons. Mais avant même la création de l'homme, il y a la création du monde angélique. Dans la théologie de l'Église, saint Augustin, quand il va commenter la Genèse, comme il dira au sens littéral, il dira dans ce premier jour de création, c'est la création du monde angélique. Pourquoi ? Parce qu'il est question de séparer la lumière des ténèbres, mais ce n'est pas la lumière matérielle, puisque Dieu va créer les luminaires le quatrième jour. Donc, quelle est donc cette lumière qui est séparée des ténèbres ? C'est le monde angélique. Dieu crée tout d'abord librement. Dieu ne va pas créer le monde, les animaux, tout ce qu'il renferme, les anges, nous-mêmes, parce qu'il en aurait besoin. Il n'a besoin de rien. Il ne fait pas ça non plus pour avoir, entre guillemets, des spectateurs, pour dire « Ah, qu'est-ce que Dieu est grand, qu'est-ce que Dieu est beau », et qui viendrait nourrir, si vous voulez, son ego. Ce n'est absolument pas ça. Dieu, il va créer gratuitement et librement. Pourquoi ? Et là, c'est une définition de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il est dans la nature de l'amour de se donner. Dieu est amour, il est dans la nature de l'amour de se donner. Et Dieu, il se donne dans sa création, il n'est pas la création. Ça veut dire, quand on mélange comme ça la divinité avec le monde matériel créé, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Et on vit dans un monde où on commence parfois à ressentir et à réentendre avec l'écologie, avec un certain nombre de choses de la mère nature, ou quand ce n'est pas le culte de la planète, eh bien, à retomber dans une forme de paganisme et à confondre Dieu et la nature. Donc Dieu, il n'est pas la nature, il va créer la nature comme quelque chose d'extérieur et qui lui est étranger, puisque c'est la matière, lui n'est pas matériel, il n'est que spirituel. Mais justement, dans ce monde-là, il y a les anges. Alors les anges, Dieu les crée, ce sont de purs esprits. On va les appeler anges, angelos en grec ça veut dire messager. On va les appeler anges quand on va désigner leur mission, et en particulier leur mission à l'endroit des hommes. L'archange Gabriel peut être vraiment appelé un ange dans le sens où il est l'envoyé du Très-Haut, dépêché auprès de la Bienheureuse Vierge Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut et lui demander si elle accepte de devenir la mère de Dieu. Mais du point de vue de la nature, l'ange est un pur esprit. Il n'a pas de corps. Alors vous allez me dire, comme les petits enfants à l'école, mais les anges n'ont pas d'ailes. Eh bien non, les anges n'ont pas des ailes. Si on représente dans l'iconographie des anges comme de petits enfants joufflus, mignons, avec des ailes, c'est pour bien nous représenter qu'il s'agit d'un ange. S'il a des ailes, ben c'est parce qu'il vient du ciel, hein, il ne vient pas des oiseaux. Et du coup, il ne faut pas oublier d'abord que l'ange est un pur esprit. En cela, l'ange ressemble bien davantage à Dieu que nous-mêmes. Alors, au moment de la création des anges, et juste avant de les faire entrer dans l'éternité divine, parce que l'ange, il est déjà dans l'éternité, il va y avoir ce qu'on va appeler la chute d'un certain nombre d'anges qui vont devenir les démons. Mais déjà, dans ce que je viens de dire, il est très important de comprendre que Dieu, déjà, n'a pas créé les démons en tant que démons. Il ne crée que des anges. Des anges pour être à son service, mais là aussi, à son service, nous on imagine les choses de façon très matérielle. Dieu n'a pas de besoin, mais il est entouré de cette cour céleste. Et il lui plaît, puisqu'il est dans la nature de l'amour de se donner, eh bien de donner à ses créatures une dignité. Ça va être, tout ce que je dis là va être vrai pour l'homme, hein. Mais il va leur donner une dignité. La dignité de l'ange, eh bien, c'est de participer et au gouvernement divin et de participer aux missions que Dieu va assigner aux anges. Donc ça, c'est déjà un point. Ces anges, je vous disais, ressemblent à Dieu parce que, comme lui, ils sont des purs esprits. Et parmi les anges, il va y avoir des hiérarchies d'anges. Il va y avoir des anges, entre guillemets, plus gradés que d'autres. Mais les anges plus gradés, c'est-à-dire plus illuminés par Dieu, ont pour mission de eux-mêmes enseigner aux anges qui leur est inférieur. C'est-à-dire Dieu va donner une lumière d'intelligence, de compréhension des mystères de Dieu à des anges élevés en hiérarchie. Et eux auront pour mission de renseigner les anges qui sont inférieurs. Non seulement ça participe à la dignité de l'ange, parce que le supérieur doit toujours aider l'inférieur, et c'est ainsi que du coup les anges entre eux connaissent les mystères de Dieu. Si un ange n'a pas de corps, comment peut-il connaître le réel, la réalité des choses? Nous on ne peut le comprendre qu'en tant qu'homme. Nous on connaît les choses d'abord parce qu'on a l'usage des sens. On voit, on entend, on touche, on peut goûter. Donc du coup, on a un rapport très matériel aux choses. Et le petit enfant, puisqu'on va prendre cet exemple-là, il va apprendre de ses parents, même avant que ses parents lui fassent une leçon. Il va apprendre le français parce qu'il entend ses parents parler français. Il va apprendre à se situer dans l'espace, alors il y a tout un tas de jeux, d'éveil, etc. Mais on va apprendre au contact même du monde. L'ange, dans ce sens-là, il ne peut pas expérimenter, parce que pour nous, l'expérience, elle est sensible. L'ange, il va recevoir directement ses lumières de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de comprendre que les anges supérieurs, ils vont donner, si vous voulez, un enseignement, C'est le fameux langage angélique, comme dit saint Paul, les anges chantent, les anges ont un langage, mais nous aussi, quand on entend langage, on pense langage articulé, corporel, matériel. Or, il y a un langage qui n'est pas articulé ni matériel, qui est ce langage des anges. Dieu, par exemple, si je prends, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? Ben, les animaux. Les anges connaissent-ils les animaux ? Ben oui, ils les connaissent et bien mieux que nous. Mais comment peuvent-ils les connaître ? Parce que nous, on va classer, on va distinguer les chiens, des chats, du cheval. Bon, l'ange, Dieu va donner une lumière à un ange, il va lui donner par exemple le concept d'animal ou d'animalité. Et à partir de là, il connaît tous les animaux. Tandis que nous, c'est le chemin inverse qu'on doit faire. Parce que je vais rencontrer tel chien, tel chat, et bien du coup après je vais, et c'est ce que font les petits-enfants, hein. Alors, il y a les petits livres d'images où on leur apprend les vaches, les canards. Mais c'est intéressant parce que c'est comme ça que l'homme, en tant qu'homme, nous faisons connaissance avec ce qui nous entoure. Ce n'est pas le cas des anges. Ils sont illuminés directement par Dieu. Alors, venons-en à leur commencement. Avant d'entrer dans l'éternité divine, c'est toujours très délicat d'en parler parce qu'on dit presque plus d'hérésie que si on se taisait, mais enfin le silence n'enseigne personne quand on est homme. On est obligé de poser au moment de la création des anges comme une instantanéité, un bref instant dans lequel il leur est demandé, parce que l'ange est libre comme Dieu est libre, eh bien d'accepter ou de refuser Dieu. L'ange est donc placé sous le régime de la foi quelque instant. Et il va devoir se prononcer, il est pour Dieu ou il est contre Dieu. Alors parfois, il peut m'arriver ou nous arriver d'envier les anges en se disant, mais au moins, ils sont du côté de Dieu et c'est réglé, une bonne fois pour toutes. Alors que nous, ici-bas sur la terre, ben nous on est dans le régime du temps, alors du coup, nous, il faut toujours recommencer. Chaque jour, voire même parfois plusieurs fois par jour, recommencer bien notre, comme on pourrait dire, l'allégeance vis-à-vis du bon Dieu, ou comme disent les anges, je servirai, servia, je servirai. Ou non serviam, dira le démon, moi je ne servirai pas l'œuvre de Dieu. Alors, que s'est-il passé avec les anges ? Je vous dis, à ce bref instant dans lequel il leur est demandé ben, d'avoir suffisamment confiance en Dieu, c'est l'origine de la foi, pour lui faire confiance. Je voudrais maintenant me faire l'avocat du diable, si on peut dire, du moins de ces mauvais anges, pour essayer de comprendre la difficulté que peut être pour un ange de faire ce choix-là. L'ange, je vous ai dit, n'est qu'intelligence. Ce qui veut dire que Dieu lui demande d'éteindre ce qu'il est, si l'intelligence est une lumière, et de passer par l'obscurité de la foi pour dire « oui, j'ai confiance en Dieu qui m'a créé ». Alors une grande partie des anges ont suivi Dieu, mais certains ont suivi celui que l'on appelle Satan, Lucifer, Lucifacere, c'était son nom d'ange, d'archange, Lucifer, qui lui décide par orgueil eh bien, qu'il n'a pas besoin de Dieu et qui refuse cette obscurité de la foi pour choisir de suivre Dieu. Vous voyez que tout cela ne nous est pas étranger. Mais nous, tout ce que l'ange doit faire comme une prise de décision dans un bref instant pour l'éternité, eh bien nous, on peut le faire pendant notre vie. C'est-à-dire que la conversion d'un ange n'est pas possible. Ce n'est pas la peine de prier pour que le démon se convertisse. C'est-à-dire que son choix, il est fait et il y a la radicalité du choix. Cette radicalité, on la retrouve dans l'Évangile quand le Seigneur dit bien, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur de dire « je vomis les tièdes ». Donc, il y a vraiment la radicalité du choix de Dieu. Mais nous, une radicalité qui est quand même estompée, c'est pourquoi, si parfois j'envie les anges parce qu'ils sont cette fois-ci du côté de Dieu, ben du coup, vous voyez, il n'y a plus de tentation pour eux, il n'y a pas de... Ben oui, mais c'est assez radical. Ils ne peuvent pas se convertir, ils ne peuvent pas changer. Si le bon Dieu, en tant qu'homme, nous donne ce mystère du temps pour nous, ben c'est que dans le temps, je peux bien sûr appartenir à Dieu et m'en éloigner, mais je peux surtout y revenir, et je peux, comme dit le Seigneur dans la parabole, jusqu'à la dernière heure de ma mort, je peux être du côté de Dieu. Je peux changer jusqu'au dernier instant, ce qui n'est pas le cas des anges. Les démons restent des démons, et les bons anges sont des bons anges. Donc il y a ce monde angélique qui est créé par Dieu. Et voyez, c'est déjà très important de commencer par là quand on parle de la création, Parce que sinon, après, on ne comprend pas comment ce serpent a pu arriver dans le jardin d'Éden. Hein? Donc c'est déjà présupposé là, Dieu qui va séparer la lumière des ténèbres, je vous dis, ce n'est pas la lumière matérielle, puisqu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, c'est déjà, si vous voulez, mettre d'un côté le bien et mettre d'un côté, de l'autre, le mal, les démons. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu a-t-il laissé les démons ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'en est pas débarrassé une fois pour toutes ? Ben, vous ne voulez pas être avec moi, ben, c'est terminé. Ben, tout d'abord parce que je vous dis, il est dans la nature de l'amour de se donner, et que Dieu a créé même ceux qui sont devenus des démons par amour, mais parce que Dieu sait aussi qu'il va se servir de leur désobéissance en vue d'un bien plus grand. C'est-à-dire Dieu sait, et oui, parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'y a pas pour lui un avant, un après, il n'y a pas, si vous voulez, sous son regard, il peut le comprendre, mais il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a cette éternelle présence. C'est ainsi, par exemple, que Dieu va révéler son nom à Moïse. Je suis, au sens très fort du terme. Hein, Dieu, il est, mais parce que c'est lui qui est au commencement même de l'être et de l'existence. Donc du coup, il va laisser les démons agir, parce qu'il sait qu'il va, parce que tout va servir d'abord à un projet de salut, tout va servir en vue d'un bien plus grand. Ça, c'est un trait fondamental de la doctrine catholique, c'est que Dieu ne permettrait pas le mal s'il n'y avait un bien plus grand en vue. On a une illustration dans le livre de Job, dans le livre de Job, Job qui est un homme, quand on a le commencement du livre de Job, à qui rien ne manque. Il a des enfants, donc il est vraiment béni des dieux, de Dieu parce qu'il a des enfants nombreux, il a une épouse à qui ne manque aucune qualité, il a des troupeaux innombrables, une fortune immense, la santé, tout va très bien. Et dans le livre de Job, il y a ce démon, cet avocat du diable, c'est de là que vient l'expression, qui est à la cour céleste et qui dit au Seigneur, mais Seigneur, il ne vous aime que parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a la santé, parce qu'il a sa famille, parce qu'il a ses enfants. Et Dieu accepte que lui soit retirée telle et telle chose petit à petit en lui disant non, mais Job, il m'aime d'un véritable amour. Il ne m'aime pas parce qu'il a son épouse, il ne m'aime pas parce qu'il a ses enfants, il ne m'aime pas parce qu'il a des troupeaux, il ne m'aime pas parce qu'il a de l'argent, il ne m'aime pas parce qu'il a la santé. Et Job est cet homme qui est dépouillé de tout petit à petit, qui subit les pires épreuves jusqu'à être déposé sur un tas d'ordures avec ses furoncles pullulants, ses amis qui viennent le voir en disant « Mais maudit Dieu, dans la situation dans laquelle t'es, Dieu ne peut pas t'aimer, Dieu ne peut pas t'aider, maudit-le » Et Job de tenir coûte que coûte dans la foi. Hein, ce que Dieu a donné, voilà, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Et à la fin de cela, Job aura le double, voire même le triple de tout ce qu'il avait avant. Hein, tout ça pour dire, dans ce livre-là, que si Dieu permet telle et telle épreuve, ce n'est qu'en vue toujours d'un bien plus grand. S'il laisse les démons nous tenter, nous tirailler, ce n'est pas Dieu qui tire les ficelles de ces tentations, c'est nous d'abord qui allons y répondre, parce qu'on a le libre arbitre. Je vais venir à l'homme, parce que nous, on est obligé de parler de nous, parce que c'est de là que nous partons. On ne connaît pas le monde angélique indépendamment de la révélation et puis de ce que nous, nous vivons. Mais du coup, voilà, si Dieu laisse ces démons-là, c'est parce qu'il sait qu'il y aura un bien plus grand derrière. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Hein, et donc, du coup, il y a déjà cette création du monde angélique que l'on dit dans le credo. Hein, il a créé le monde visible et invisible. Hein, il y a plein de créations, de créatures qui sont invisibles. Le mystère du temps, dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, ce n'est pas quelque chose que nous voyons. Nous pouvons voir les effets des saisons. Hein, là, nous sommes à l'automne, alors on va voir la nature qui va changer. On se dit, le temps passe, c'est l'automne, les températures. On a tout un rapport au temps qui nous font voir les choses. Hein, le temps qui passe, si je regarde ma montre, bien sûr, j'ai appris à aller plus loin qu'un mouvement d'aiguille. J'ai appris à lire les chiffres, j'ai appris à me situer dans le temps, hein, mais ce temps est une créature que je ne vois pas en tant que temps, si vous voulez. Donc il y a des choses comme ça qui sont créées et que l'on ne peut pas voir, ben, y compris le monde angélique. Hein, les anges, on ne les voit pas, sauf si Dieu leur donne un corps pour assurer une mission. Je vous ai dit, les anges n'ont pas de corps, très bien. Mais la Bienheureuse Vierge Marie, Si elle a l'ange Gabriel qui lui apparaît en tant que pur esprit, ben elle ne peut pas le voir, elle ne peut pas l'entendre. Parce que la bienheureuse Vierge Marie, au jour de l'Annonciation, ben elle a besoin de, si elle voit l'ange, c'est bien que l'ange s'est manifesté à elle de façon corporelle, car nous ne voyons pas autre chose. Et s'il lui a parlé, ben c'est bien qu'il a eu un corps pour l'exercice de sa mission. Alors il y a eu de grandes questions au Moyen-Âge pour savoir mais d'où est-ce que Dieu prend les corps? Est-ce que c'est quelqu'un qui va est-ce que l'ange va emprunter un corps? Est-ce qu'il va posséder quelqu'un momentanément? Est-ce que voilà, alors la grande réponse est de dire ben écoutez, Dieu n'a rien fait à l'économie. Donc du coup, il peut très bien créer le corps momentanément pour l'archange Gabriel et quand il n'en a plus besoin, voilà. Hein, donc du coup, il y a ça aussi chez les anges, hein, il faut pas non plus oublier que ils peuvent se manifester à nous par des inspirations. Hein, des choses que l'on peut ressentir, au même titre que le démon peut nous tenter par des choses qui soumet par notre imagination, voilà. Mais le bon ange, il peut aussi se manifester à nous sous une forme corporelle quand il y a vraiment une mission divine. Nous pensons au petit enfant Toby, hein, ben il a eu cet ange matérialisé hein, qui est venu le guérir du fait qu'il était aveugle, hein, et puis du coup, là, il y a et aussi l'archange Gabriel. On peut penser la même chose quand on nous dit dans ce livre de la Genèse que Dieu place un ange pour garder la porte du jardin d'Éden une fois que l'homme et la femme en sont chassés. Voilà, donc, hein, les anges n'ont pas de corps, mais ils peuvent assumer un corps pour leur mission. Voilà. Donc, il y a ce monde angélique. Et ce monde angélique est déjà important parce que dans la liturgie, eh bien, les anges nous sont associés. Hein, au moment du « Je confesse à Dieu », on dit bien dans le Confiteor « Je confesse à Dieu Tout-Puissant », bon, « Je reconnais devant mes frères », d'accord, on est là, mais « Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints ». Ça veut dire aussi que les anges, hein, ils sont du côté de Dieu, hein, et je peux bien sûr les prier, je peux les invoquer pour qu'ils me donnent, eh bien, les lumières nécessaires à comprendre telle et telle chose. Hein, ces anges, ils chantent. On le dit toujours avant de chanter nous-mêmes ce qu'on appelle le chant des anges, qui est le moment du Sanctus. Alors, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Saint, 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 le Seigneur. Hein, on dit toujours, ben, c'est uni, alors il y a différentes introductions, mais c'est uni aux anges, ou alors, on précise bien, hein, aux les anges, les archanges, tous les esprits bienheureux. Bien, esprit bienheureux, c'est bien parce qu'ils n'ont pas de corps. Donc du coup, et on leur dit voilà, que c'est avec eux que l'on va chanter le chant angélique, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tout ça pour dire que, eh bien, on est associé aux anges et qu'au ciel, nous formerons avec le monde angélique une seule et même société. Alors, je ne peux pas répondre à des questions concrètes. Comment est-ce que nous verrons? Parce que nous aurons la résurrection de la chair à partir du dernier jour. Et du coup, est-ce qu'on verra les anges? Est-ce que... Alors ça, écoutez, il faut garder des choses à découvrir au ciel. Donc voilà un peu déjà pour ce monde angélique et qui va du coup après nous permettre aussi de mieux comprendre la tentation du péché originel. Hein? Donc déjà, Dieu crée le monde angélique. Il crée le temps. Il y a déjà deux questions, enfin deux sujets qui sont déjà très importants. Je voudrais juste finir au sujet du temps en revenant sur un point de Saint Augustin dans les Confessions. Saint Augustin va avoir un de ses livres des Confessions au sujet du temps parce qu'il dit quelque chose d'important. Saint Augustin réalise à un moment donné qu'il n'y a pas trois formes du temps. Il n'y a pas d'un côté le passé, il n'y a pas le futur, il n'y a pas le présent. Saint Augustin dit, mais à bien y réfléchir, il n'y a que le présent. Je ne vis que le présent. Et Saint Augustin de dire, à présent, je peux considérer le passé. Mais c'est ce que Saint Augustin va appeler le présent du passé. C'est maintenant que je regarde le passé. Mais quand c'était le passé, j'étais au présent. Donc de dire, il n'y a que ce mystère finalement, du présent. Pareil pour le futur, je peux être inquiet, mais c'est maintenant que je suis inquiet. Je m'inquiète pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc saint Augustin va dire, mais écoutez, il y a le présent du passé, il y a le présent du présent, puis il y a le présent du futur. Et ça, c'est également important de bien comprendre ça, parce que ça nous permet de réaliser que nous ne sommes pas, si éloignés de Dieu. Hein, je vous ai dit, quand Dieu va révéler son nom à Moïse dans le buisson, il va dire « Je suis celui qui est ». Hein, au sens fort du terme, il va utiliser une formule intemporelle que permet la grand-mère juive, qui a toujours là, ce temps-là, a toujours Dieu pour sujet. Hein, quand Dieu dit « Je suis », il dit en même temps « Je suis qui j'étais, je suis qui je suis, je suis qui je serai ». Et c'est pour ça qu'après, on peut également l'appeler l'Éternel, parce que Dieu est parfaitement présent. Alors nous, finalement, à bien y réfléchir, on n'est toujours que au présent, avec bien sûr une conscience du passé et du futur à venir. Mais tout ça, c'est vrai aussi des mystères de la foi. Nous sommes aujourd'hui en 2021, il y a un certain nombre d'éléments qui appartiennent au passé, et puis il y a également aussi un futur. Il y a le retour du Christ, hein, qui est vraiment la perspective, voire même l'orientation de notre espérance. Nous attendons le retour du Christ. Si on attend le retour, c'est qu'il est déjà venu. Pour nous, ça appartient au passé. Aux environs de l'an 0, voilà que le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Aux environs de l'an 33, voilà que le Seigneur a offert sa vie sur le bois de la croix, 3 jours après est ressuscité, après est monté aux cieux, et là nous sommes ensuite dans tout ce temps que l'on appelle les derniers temps, en ces temps qui sont les derniers. C'est comme ça que dans l'Épître aux Hébreux, hein, on parle de ce temps qui maintenant nous fait passer de la Pentecôte avec le début de l'Église jusqu'au retour du Christ. Et que se passera-t-il au ciel ? C'est bien ce que le Seigneur appelle la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on va rentrer davantage dans cette omniprésence de Dieu, c'est-à-dire cette présence qu'il y a sur ce temps-là. Alors Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Hein, et bien nous, on a aussi quand même le présent comme moment décisif. Hein, nous devons toujours nous décider, est-ce que je suis avec Dieu, est-ce que je suis contre Dieu, mais là je suis tombé dans la tentation, puis là il faut que je me convertisse davantage. Ça fait partie pour nous du mystère du temps. Et c'est finalement une chance. Parce que vous avez vu la radicalité angélique, soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous n'y êtes pas. Eh bien nous, et c'est ce que demande aussi la Vierge à Lourdes, hein, prier Dieu pour la conversion des pécheurs, ben c'est pour que dans le temps, hein, tous nous puissions, hein, revenir vers Dieu de tout notre cœur. Donc ce mystère du temps, ben du coup il va habiter toute la révélation, hein, parce qu'à partir du moment où l'homme est créé, ben il est créé dans le monde, dans le temps, hein, et ce temps, il ne cesse de passer. Mais c'est une création. Ce que nous connaîtrons ensuite au ciel, ce n'est plus ce mystère du temps qui passe, c'est celui de l'éternité, de la présence de Dieu. Vous voyez, être en présence de Dieu, c'est aussi avec ce jeu de mots du présent, hein, de cette éternelle présence.